auditeurs de Radio Guémozo et bienvenue sur le 107. Je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son, fil rouge de cette émission littérature, nature et symbolique. Jérôme Bonnet et Pablo Béac, deux auteurs vosgiens, me rejoindront dans quelques instants dans le cocon confortable de l'odeur du son. Mais avant ça, c'est l'heure des actus qui donnent le smile. À Paris, 17 000 élèves de foyers modestes pourraient manger à la cantine gratuitement dès la rentrée 2026. Après 20 ans d'absence en Belgique, le lynx pourrait progressivement faire son retour dans ces régions forestières. Si la science cherche depuis des années à freiner la sclérose en plaques, un nouveau médicament vient de marquer un tournant historique. Il permettrait de ralentir significativement la progression du handicap. Pour certains patients, c'est une véritable renaissance. Merci pour l'info, Joe. Allez, c'est le moment de se glisser dans le sujet du jour. Chaque livre est un miroir aux mille reflets, chaque phrase un talisman. Nous ne lisons pas seulement pour fuir le jour, mais pour décoder la nuit. Un fil d'or entre le mythe et la page, une clé cachée au creux d'une métaphore, un phare allumé sur l'océan de nos archétypes. C'est à ce moment précis que j'accueille mes invités. Pablo, Jérôme, bonjour à tous les deux, comment ça va ?
Bah écoute, ça va, moi. Pas de soucis, comme d'hab.
Ouais, ça va très bien aussi, merci.
Chaudement, mais on est là, quoi.
C'est ça, t'as tout compris.
On va essayer de donner de l'énergie dans cette émission, mais auditeurs, on ne vous promet rien. En même temps, c'est le moment du repas, là, on est smooth quand même. Voilà. Bah merci beaucoup, en tout cas, de me rejoindre aujourd'hui dans le cocon confortable de l'odeur du son. Quelle actu avez-vous préférée, si vous vous en rappelez un petit peu ?
Sur ce que t'as donné, là, justement.
Ouais.
Moi, je crois que ce qui m'a tapé dans l'oreille, là, c'est le sujet sur la sclérose en plaques.
Ouais.
Parce que je connais des personnes concernées, donc du coup, c'est pour ça que c'est plutôt positif.
Ok.
Voilà.
Et toi, Pablo ?
Je dirais que les trois étaient comme des super actus, mais ouais. D'un point de vue personnel, étant un amoureux de la nature, le retour du lynx en Belgique, ça me parle beaucoup.
Bah, ça, je m'en doutais.
Mais évidemment, que les enfants puissent manger à leur faim et qu'on se soigne la sclérose en plaques, c'est aussi super. Donc,
tout à fait, on ne va pas choisir. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une interview croisée. Nouveau concept pour moi. Alors, en même temps, je ne me suis pas trop foulée. Hein, vous êtes carrément dans le même thème. Mais voilà, c'est une première quand même. Il me semble que vous vous connaissez déjà tous les deux. Hein.
Oui, tout à fait.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Comment s'est faite votre rencontre ?
Alors,
vas-y, Pablo.
Je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était au Salon du Livre de Belfort, si je me souviens bien.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Et puis après, on s'est souvent vu au Fantasticard à Gérardmer, notamment.
Ouais.
On a fait quelques salons ensemble, ouais.
Ok. Ah, ouais. D'accord. Et vous avez déjà pu échanger ? Vous avez lu un petit peu
On a partagé nos univers et puis
oui.
Ça a tout de suite matché, quoi.
Génial. On a pu vous croiser il y a peu sur les Imaginales, tous les deux ? Vous y étiez ?
Moi, j'y étais pas cette année,
tu
personnellement.
Tu étais pas cette année ?
Quelques années, oui.
Ok.
Ouais, moi, cette année. Puis,
ouais. Est-ce que tu as fait des belles rencontres ? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette édition-là ?
C'est comme d'habitude, en fait. C'est toujours le hasard des personnes qui s'arrêtent, qui viennent découvrir les stands. Là, nous, on était au stand de l'Union des écrivains vosgiens. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu tous les thèmes. Et puis, le simple fait que les gens s'arrêtent, qui viennent découvrir ce qu'il y a en dehors de ce qui est officiel, on va dire, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'était très, très intéressant cette année.
Ouais. Et vous êtes ensemble sur Fantasticard cette année ? Vous aviez été ensemble ?
Oui.
Ouais.
Cette année, on était l'un à côté de l'autre, comme plusieurs éditions d'ailleurs. C'est une petite habitude.
C'était carrément votre sujet de prédilection, la Fantastica, non ? La thématique était bonne.
Ouais.
Pablo, tu es un petit nouveau dans l'odeur du son, mais peut-être que tu le sais déjà, j'ai deux questions incontournables dans cette émission. La première, tu es donc ici dans l'odeur du son. Est-ce que le son a une odeur pour toi ?
Oui, bien sûr. Il y a certains sons qui ont une odeur, en tout cas pour moi, hein, c'est sûr. Je pense à, je sais pas, par exemple, l'odeur du souffle du vent dans les aiguilles, j'ai l'odeur des pins qui vient naturellement, du sapin,
génial.
Ce genre de choses. Le son des vagues fait penser à l'odeur de la mer. Voilà, je pense que les sons et les odeurs sont connectés. Des fois, le son nous donne une odeur en tête, ou inversement, une odeur nous fait penser à un son.
Ouais. Et toi, tu as changé un petit peu d'avis depuis la dernière fois, Jérôme ? Parce que Jérôme, c'est un vrai habitué à l'odeur du son.
Je pense que Pablo a tout dit. Il y a un côté kinesthésique qui est très important. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui fait remonter un son, une odeur, un son, et puis même des images, tout simplement.
Voilà. Ouais. La petite Madeleine de Proust.
C'est ça.
Hein. La deuxième, Pablo, si tu devais te présenter avec tes propres mots à toi, ça donnerait quoi ?
Eh bien, je ne sais pas s'il faut que je fasse une présentation un peu formelle ou plus...
C'est comme tu le sens, voilà.
Bah, disons que je suis multicasquette, que j'ai eu un parcours assez atypique, où je suis déjà un amoureux de la nature depuis tout petit. Voilà, je fais mes premiers herbiers, j'étais vraiment à l'école primaire, et je suis un passionné de nature, de plantes en particulier, d'oiseaux aussi, de nature en général.
Génial.
Donc j'ai été botaniste professionnel pendant longtemps, mais aussi j'ai des casquettes différentes, parce que j'ai été prof, j'ai été guide nature.
Ok.
Donc voilà, je suis un peu multifacette, et évidemment écrivain également.
Ok. T'as l'air tout jeune, mais t'as l'air d'avoir mille et une vies, quoi.
Ah bah, j'ai beaucoup changé de vie. J'ai 34 ans et j'ai évolué plusieurs fois, ouais.
Ça fait mal quand on dit t'as l'air tout jeune et que le gars dit j'ai 34 ans.
je le prends bien.
Ça te vient d'où cette passion, cette appétence pour la nature des parents?
Je pense que mes parents avaient une sensibilité pour la nature évidente qu'ils m'ont transmis. Et puis, quand j'étais petit, j'étais quand même passionné aussi par l'univers fantastique ou plutôt fantasy. J'étais vraiment un fan du Seigneur des Anneaux, de ce type de récit. Et moi, pour être tout à fait honnête, j'étais surtout un amoureux des elfes ou des rôdeurs, en tout cas de ces personnages qui passaient beaucoup de temps dans la nature, qui connaissaient les traces, les empreintes, qui connaissaient les plantes, qui savaient se soigner avec ce qui les entourait. Donc, je pense que je me suis un peu identifié à ça quand j'étais petit. Et à force de jouer à être un rôdeur, j'en suis devenu un, en quelque sorte, réellement. Et
c'est génial.
Je suis devenu un naturaliste, voilà.
Super. Est-ce que tu manges les plantes comestibles, tout ça, tu sais reconnaître?
Ah bah, bien sûr, oui. Bah, moi, je sais reconnaître toutes les plantes de nos régions. C'était mon métier pendant longtemps. Et il m'arrive d'en consommer quelques-unes, oui.
Ok. Bien sûr, ouais. Est-ce que c'est vrai qu'une plante comestible a un cousin qui est, lui, toxique? Tu sais, une plante qui se ressemble vraiment...
Pas forcément toutes. Il y a des plantes comestibles qu'on peut vraiment pas confondre avec qui que ce soit d'autre. Après, il y a certaines plantes pour lesquelles effectivement il faut se méfier parce qu'il y a un double maléfique, si on veut, effectivement, qui ressemble un peu et qui peut.
Ça me fait penser au film Lost in the Wild. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu, Jérôme, toi?
Oui, tout à fait.
Peut-être que je le prononce très mal, Pablo. C'est un Américain, je crois. Hein, ça se passe aux États-Unis, qui lâche tout, il en a marre du capitalisme.
Into the Wild.
C'est ça? Ah, pardon.
Pardon.
Voilà, je me disais bien, il avait l'air perdu. Ça m'étonnait quand même que tu le connaisses pas. Mais ça me fait penser à ça, parce qu'à la fin, c'est quand même une histoire vraie, il me semble.
Oui,
il meurt. Par toxicité d'une plante, il me semble.
Tout à fait. Ils confondent une plante avec une autre. Parce qu'il faut se méfier vraiment. Quand on n'est pas sûr, il ne faut pas la récolter, il ne faut pas la manger. C'est comme les champignons, en fait. Voilà.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Pablo, j'ai lu que tu étais né dans le nord de la France et que tu étais venu dans les Vosges car l'immensité des forêts parviendrait à assouvir ton besoin d'aventure et d'évasion.
Alors, pour être franc, je suis arrivé en Lorraine un peu par hasard au début.
Okay.
Je suis arrivé pour le boulot, en fait, quand j'ai terminé mes études, justement, de naturaliste. J'ai trouvé mon premier poste de botaniste en Lorraine. Et ensuite, je me suis installé dans les Vosges parce que j'ai trouvé un poste qui était aussi dans le secteur dans les Vosges
alsaciennes. Donc, c'était mensonger ce que j'ai lu.
Non, parce que ce qui est vrai, c'est que j'ai décidé de rester dans les Vosges en raison de ça aussi. Quoi, que, de toute façon, je ne serais pas resté dans le Nord-Pas-de-Calais toute ma vie parce que je suis un grand amoureux de forêt, un grand amoureux d'espace, de montagne aussi, enfin de moyenne montagne.
Ouais.
Et je préfère les paysages vosgiens à ceux de mon enfance, même si j'aime aussi les paysages de mon enfance pour des questions nostalgiques.
Je pense que Jérôme et moi, on te comprend, hein, Jérôme.
Tout à fait.
Ouais. On parle aujourd'hui de vos dernières sorties. Alors, on devait parler de Scribe avec toi, Jérôme, mais j'ai lu que tu écris tellement vite que tu es sur le point de sortir un nouveau roman.
Bah depuis Scribe, en fait, enfin depuis qu'on s'est vu, il y en a eu 6, en fait.
C'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
Mais comment c'est possible d'écrire aussi vite? Ok, donc duquel on parle aujourd'hui?
Celui que tu veux.
Allez, on va parler de Scribe parce que j'ai mis 2-3 petites infos là-dessus. Est-ce que tu peux nous planter un petit peu le décor de ce roman et puis peut-être que tu pourras nous parler des suivants quand même?
Pas de souci. Alors, Scribe, en fait, c'est... C'est comme je te l'avais dit la dernière fois, j'avais envie d'écrire un livre sur le mythe du vampire, mais un vampire, le mythe du vampire revisité. Je voulais pas retomber dans quelque chose de traditionnel avec ce qu'on a déjà pu lire, etc. Même s'il y a des influences avec Bram Stoker et le film aussi avec Gary Oldman et de Coppola.
Ouais.
Mais je voulais avoir un vampire qui soit unique et qui... quelque part, au-delà de sa mission, au-delà de mordre des gens et de survivre, donne, on va dire, un sens à sa morsure. Et justement, ça m'a permis, au travers de ce livre, d'aborder la question du droit à mourir et de la fin de vie, en fait, tout simplement.
D'accord.
Voilà.
Ok. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Pablo, quand t'entends ce résumé-là?
Eh ben, je me dis que Jérôme et moi, on a beaucoup de points communs littéraires, de toute évidence des références communes avec Dracula et autres.
Ouais.
Et puis que le mythe du vampire est effectivement un mythe revisitable à loisir et à foison.
Ouais.
Et que c'est bien de, Voilà, c'est bien de remettre au goût du jour, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le mythe du vampire. D'ailleurs, au Festival de Gérardmer, cette année, il y avait un très beau film de vampire, un court-métrage, j'ai oublié le nom, mais
ah ouais
que j'avais vraiment beaucoup aimé, sur, okay. qui ont visité le mythe du vampire en faisant un parallèle avec la discrimination en lien avec le sida.
Oula, ok.
Et, mais qui était très intéressant, vraiment, ouais. Et je ne me rappelle plus le titre, c'est dommage. Mais c'était vraiment un super court-métrage et je conseille du coup de le retrouver pour ceux qui s'intéressent.
On va chercher ça. On va chercher ça. Est-ce que toi, tu as déjà écrit sur ce genre de sujet, par exemple?
Alors, sur les vampires en tant que tels, non. Enfin, si, j'ai écrit des petites nouvelles que j'ai jamais publiées sur les vampires quand je m'essayais à l'écriture ado. Mm-hmm. J'ai jamais publié de romans ou de nouvelles qui spécifiquement font référence au mythe du vampire. Mais il y a parfois des références à cela dans certains de mes romans. Je pense notamment à Comme meurent les papillons, où les enfants pensent être tombés sur des vampires à un moment donné et après avoir visité des caveaux d'un cimetière, et ils ressortent et du coup cherchent de l'ail pour essayer de s'en prémunir. Voilà, par exemple, c'est une petite anecdote d'un de mes livres.
Tous les petits mythes. Est-ce que Scribe et le mythe du vampire que tu as écrit, Jérôme, traversent cette fois encore les Vosges, parce que ça, c'est quelque chose de très... voilà, c'est un fil rouge un petit peu dans tes livres, quand même.
Là, en fait, non, il ne traverse pas les Vosges. Il traverse beaucoup, beaucoup de pays, beaucoup de lieux que j'ai visités et que j'ai trouvé extraordinaires. Mm-hmm. Et j'avais envie aussi d'aller replonger dans les histoires de vampires qui peuvent exister ici et là, notamment en Amérique du Sud, dans le Brésil. Enfin, voilà, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, des histoires de... plus ou moins vrai vampire. Mais voilà, j'ai eu envie de faire voyager cette fois-ci les gens dans des lieux un peu particuliers. Ouais. Quoi, voilà.
Vous vous inspirez tous les deux de décors que vous avez déjà visités, de films, d'atmosphères comme ça qui vous imprègnent, et c'est important?
Bah oui, bien sûr. Hein. Bah moi, les romans que j'écris, la plupart du temps, l'action se passe dans les Vosges parce que j'y vis, que j'aime cette région et que c'est aussi un hommage à ces paysages que j'arpente tous les jours et que j'aime beaucoup.
Okay.
Et puis après, des fois, il y a certaines nouvelles, par exemple, qui se passent dans le Nord, le pays de mon enfance. Voilà, c'est généralement plutôt dans des milieux naturels que se passent mes nouvelles, moi.
C'est quoi ton endroit chouchou dans les Vosges?
Il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup quand même les Vosges du Nord, le secteur du Donon.
Tout ça. Ouais. Je sais pas pourquoi j'en étais sûre.
J'adore cet endroit. C'est par exemple là que se passe le premier roman, Les Disparus de Darlon.
Ok.
Enfin, c'est pas vraiment au Donon, mais c'est dans les Vosges du Nord, en tout cas les Vosges. Voilà. Et le secteur du Donon, Saint-Quirin, la vallée de la Sarre, Sarre Blanche, tout ça, ça c'est des coins que j'aime beaucoup. Ouais.
Ok. Tu pourrais lui en faire découvrir aussi, toi, Jérôme. Tu les as arpentés, les endroits.
Bah, ceux-là, je les connais. Enfin, je les connais de nom. J'y suis allé, assez rarement. C'est ça. Donc, c'est vrai que je pense qu'il les connaît mieux que moi. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Ouais, on pourrait. De toute façon, on en avait déjà discuté, mais il y a un projet pour l'année prochaine que je lui ai proposé pour une semaine du. Alors, je crois que je ne sais plus si c'est la semaine des arts ou du paysage sur la communauté de communes de Vanier, etc. Enfin, où on va pouvoir faire à la fois de la sylvothérapie, en même temps, peut-être, s'il est d'accord, présenter les arbres aux gens qui viendraient.
Ouais, on va en parler un petit peu plus tard. Voilà. On va en parler un petit peu plus tard. Chez toi, Pablo, on parle des livres de la collection Ce que cachent les Corses. Alors ça, c'est trop mignon, j'adore. Livre consacré aux histoires culturelles, imaginaires et symbolismes du chêne et du pommier, pour commencer.
Exactement. Ouais. En fait, le nom, Ce que cachent les Corses, je trouve qu'il est assez parlant parce qu'en fait, le but de cette collection, c'est, alors ce sont des essais, hein, juste pour faire un petit peu la transition avec ce dont on parlait tout à l'heure. Là, on est vraiment sur des essais historiques, des essais de recherche en fait sur les arbres, mais non pas sur la biologie des arbres ou leur écologie, mais vraiment sur leur aspect culturel, c'est-à-dire étudier les arbres comme des éléments que l'homme intègre à son imaginaire et auxquels il attache un certain symbolisme, alors dans le cadre des mythes, des religions, de la littérature médiévale, mais aussi jusqu'à la culture contemporaine, c'est-à-dire les films, les jeux vidéo, la littérature moderne. Voilà, donc c'est vraiment un vaste travail de recherche à travers l'imaginaire humain pour essayer de comprendre comment est-ce que les arbres, les différentes espèces d'arbres sont interprétées au niveau symbolique. En fait, voilà. Et donc, Ce que cachent les Corses, c'est pas mal parce que ça révèle un peu la face cachée, j'ai envie, des arbres. Le côté qu'on ne voit pas quand on regarde un arbre et qui pourtant est fascinant. Et j'ai été fasciné en faisant ces arbres, en étudiant ces arbres. Et donc, on a commencé par le chêne. En fait, pour être tout à fait franc, j'ai commencé par proposer le chêne à l'éditeur. Et avec ce projet de collection. Et en fait, c'est en discutant avec l'éditeur qu'on a décidé de faire le deuxième tome sur le pommier, puisque c'est deux arbres un peu complémentaires. Le chêne est un arbre plutôt masculin, si on devait parler en termes de symbolisme. Et...
Ouais.
Alors que le pommier est un arbre plutôt associé à des valeurs féminines, beaucoup plus. Alors, en tout cas, beaucoup, vraiment associé à des divinités féminines et lié à des valeurs que l'on associe traditionnellement, j'entends, à la féminité. En fait. Donc, on a deux arbres très différents et très complémentaires. Et donc, c'était intéressant de les étudier. De manière concomitante. Voilà.
Et c'est pour ça que tu as choisi le chêne et le pommier en premier?
C'est ça, parce qu'on est d'accord avec l'éditeur, on s'est mis d'accord là-dessus, notamment à ce propos. Ouais.
Okay. Est-ce que toi, tu es plutôt quelqu'un de très cartésien ou est-ce que tu t'intéresses aussi un petit peu au côté spirituel et au bienfait de ce que nous apportent ces êtres incroyables que sont les arbres?
Eh bien, c'est peut-être effectivement une petite différence avec Jean. Moi, je suis comme très cartésien. Là, ce sont des études très, 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 très scientifiques, je dirais, ouais. En tout cas, très sourcées, dans lesquelles je vais chercher les sources, etc. Mais qui parlent d'imaginaire. Donc, finalement, on touche quand même à la spiritualité, au mystique, on touche aux créatures surnaturelles, on touche au folklore, au petit peuple, à la religion, au dieu, à la spiritualité de manière évidente. Mais disons que je suis plus dans l'idée d'étudier comment l'homme intègre les arbres à sa spiritualité plutôt que d'étudier la spiritualité des arbres directement.
C'est ce que je veux dire, quoi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du chêne et du pommier ?
Ah bah écoute, moi, j'ai vu les deux livres, je les ai feuilletés, j'ai regardé... je sais que cette collection-là, elle va parler à beaucoup de personnes. Enfin, je trouve que Pablo a amené quelque chose en plus, justement, pour par rapport à ses arts, par rapport à cette collection. Et non, faut vraiment faire l'effort d'aller découvrir ces deux ouvrages parce qu'ils sont super, quoi.
Ouais, on a hâte de découvrir tout ça. Tu étais il y a peu, du coup, chez Maud à la librairie. Posez-vous pour une petite conférence, justement, par rapport à tout ça. On te retrouve prochainement si on veut t'entendre quelque part ou pas?
Alors, est-ce que j'ai des conférences de prévues? J'ai des sorties guidées de prévues prochainement, mais plutôt en Hudson. Donc, si on devait parler des Vosges, je pourrais évoquer peut-être... Alors, il y a la fête du Saint-Mont qui est le 26 juillet, je crois.
C'est génial.
Pas de bêtises. Il faut que j'arrive la date. En tout cas, c'est fin juillet, où là, je suis à la fête du Saint-Mont, où je proposerai une sortie guidée le matin, donc autour du Saint-Mont, et l'après-midi, dans les locaux, dans la salle, une conférence, du coup, sur les plantes de moines, en tout cas, l'usage des plantes au Moyen-Âge.
Oh, voilà. C'est incroyable.
Et ensuite, je serai à la fête médiévale de Remiremont aussi, pour des petites conférences de 20 minutes au fil de la journée. Voilà.
C'est facile de vulgariser tout ça. Moi, je m'arrête plus dans mon interview. Il faut que je fasse...
facile, oui et non. Disons que moi, j'aime beaucoup vulgariser, j'aime beaucoup transmettre. En fait, c'est aussi pour ça que j'avais été un peu enseignant, parce que j'aimais beaucoup ce côté... pas seulement rester dans mon coin et faire mes recherches, mais aussi essayer de les transmettre à des jeunes, à des adultes aussi. Donc, c'est plutôt agréable et facile pour moi. Après, des fois, quand on fait beaucoup de recherches comme ça, c'est pas forcément toujours évident de ne pas vouloir parler de tout, en fait, parce que c'est tellement intéressant, tellement vaste, tellement fascinant que des fois, en conférence, j'ai tendance à dépasser l'horaire indiqué parce que j'ai envie de parler beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire et que tous les thèmes sont tellement extraordinaires, il y a tellement de choses à dire sur le chêne, sur le pommier, sur les arbres en général que j'ai tendance à dépasser un petit peu le temps.
On se sait là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu as déjà un petit peu écouté Pablo et tout ce qu'il avait à dire sur les arbres ?
Sur les conférences ? Tout à fait. C'est un... On voit qu'il a la pratique quand même. Donc, le chic de capter l'attention et justement d'amener les personnes, l'auditoire, à entrer dans ce sujet-là qui pourrait paraître peut-être à un moment donné pour ceux qui ne sont pas dans cette thématique un peu complexe.
C'est sûr. Allez, on se lance dans mon premier disque chouchou avant de continuer cette émission qui s'annonce passionnante, voilà, en tout cas pour moi. Patrick Scheder, alors j'espère que je le prononce bien, est un pianiste et concepteur de spectacles sur le thème de la biodiversité. Il a ainsi monté en 2009 Des jardins et des hommes. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur les relations entre l'homme et la nature, mais il est avant tout pianiste. Vous le connaissez ?
Pas du tout.
Alors, non plus, j'avoue.
Et ben voilà, on va écouter ça ensemble. Okay. Thank you. pour ce petit moment un petit peu chouchou dans cette émission. On vous l'a dit, on est smooth hein, aujourd'hui. On prend son temps, on s'hydrate, on reste au frein, on bouge pas trop. Ça parlait un petit peu... Il y avait quelque chose qui se tramait là dans le studio entre tous les deux. Vous mettez au point un projet, ça?
Oui, c'est ça. Bon, en fait, ouais, on discutait de deux, trois choses. Voilà, tout à fait. Comme d'habitude, quoi.
Ouais, c'est ça.
On a hâte de vous découvrir tous les deux. Ça serait incroyable de voir une collaboration entre tous les deux. Vous avez tous les deux au moins un point commun, et je pense qu'il est loin d'être le seul. Mais celui qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la symbolique.
Effectivement. Ah, on peut pas dire. Oui, c'est effectivement. Il y a beaucoup de symbolique dans nos ouvrages, ouais.
Alors chacun avec sa sensibilité. Toi, la symbolique, tu la trouves où, Jérôme? Alors on n'a pas parlé de tes romans entre le moment où on s'est vu aujourd'hui.
Oui.
Est-ce qu'il y avait de la symbolique? Est-ce que c'est quelque chose que tu balayes à chaque fois?
C'est quelque chose que je mets à chaque fois dedans parce que ça, comme Pablo fait ses recherches sur les arbres et sur ce rapport des hommes avec les arbres, pour moi, ça reste effectivement quelque chose d'important parce que la symbolique, c'est quelque part une image ou quelque chose qui est utilisé pour faire passer un message depuis des siècles, quoi. Donc, voilà.
Ouais. Et toi, Pablo, la symbolique, ça représente quoi?
Eh bien, effectivement, je pense déjà dans mes romans, j'utilisais souvent des objets ou des éléments d'un point de vue symbolique. Et puis là, du coup, les livres que j'ai sortis sur le chêne et le pommier sont vraiment des livres où j'étudie la symbolique du chêne et du pommier dans le cadre des différentes littératures, des différents mythes, des différentes religions, etc. Donc, en fait, ça veut dire étudier... Pourquoi est-ce que les auteurs ont décidé d'utiliser cet arbre dans tel contexte particulier? Et on se rend compte qu'il y a une cohérence vraiment forte, en fait, entre, par exemple, le fait que le pommier, par exemple, soit un arbre qui symbolise l'autre monde, symbolise le monde parallèle, le paradis. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans la Bible, avec le fameux jardin d'Éden, que l'on retrouve dans la mythologie celtique, avec Avalon, par exemple, l'île où va mourir le roi Arthur, mais aussi les fées qui attirent les mortels dans l'autre monde par l'intermédiaire d'une pomme, que l'on retrouve, en fait, dans de nombreux contes, de nombreuses légendes. Par exemple, dans le monde de Narnia, c'est une armoire en pommier qui permet le passage vers l'autre monde. Dans l'histoire sans fin, quand Bastien se plonge dans le monde parallèle en lisant le livre, il le fait en croquant une pomme. Donc il y a vraiment un côté très symbolique avec la pomme. Et c'est fascinant, je trouve, de voir qu'on retrouve ce symbolisme dans le cadre de cultures qui sont pourtant en apparence très éloignées dans le temps ou géographiquement. En fait. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans la symbolique, c'est voir à quel point elle peut être transmise et traversée les âges, les époques et les frontières politiques.
Mais comment ça s'explique, ça, que plusieurs personnes utilisent cette symbolique sans même se connaître, en fait, plusieurs civilisations même.
Eh bien, sans même se connaître, ça se discute parce qu'en fait, il y a probablement eu des transferts culturels qui s'opèrent entre, par exemple, les Grecs et les Celtes, entre les époques et la transmission qui s'opère par les livres, etc. Et puis, par ailleurs, il y a des théories à ce sujet. Par exemple, il y a un anthropologue qui s'appelle Georges Dumézil qui émet l'idée que il pourrait y avoir, avant les mythologies que l'on connaît, que l'on étudie aujourd'hui, il pourrait y avoir un fond culturel indo-européen, c'est le terme qu'il utilise, c'est-à-dire une espèce de mythologie primitive de laquelle seraient issues toutes les autres mythologies et qui donc continuent de maintenir certains motifs au sein des différentes cultures, par exemple. Donc ça, voilà, il y a plusieurs théories sur le sujet. Et puis autre élément aussi, c'est que des fois, le symbolisme s'adapte à la morphologie de l'arbre. Par exemple, le chêne, qui est un symbole de force, on comprend pourquoi. C'est un arbre qui est massif, qui est grand. Et donc, on retrouve ce chêne symbole de force, pareil, aussi bien chez les Grecs que chez les Scandinaves, que chez les Celtes, que dans la culture contemporaine ou la culture ancienne. Donc, on voit que ça peut être aussi lié, je dirais, aux caractéristiques intrinsèques de l'arbre qui permettent de faire découler un symbolisme particulier, en fait, tout simplement.
On le retrouve aussi dans Le Seigneur des Anneaux, ce chêne, c'est ce que je viens de lire.
Oui, par exemple, par exemple, il y a le chêne qui est fort et qui protège les personnages, qui sert souvent de refuge aux personnages.
Et oui, c'est vrai.
Et bien, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a dans le livre, le moment où Frodon et Sam quittent la comté et qu'ils doivent s'échapper du chemin parce qu'ils sont poursuivis par les Nazgûl, ils cherchent un refuge pour la nuit, ils trouvent un vieux chêne creux dans lequel ils vont passer la nuit, dormir en paix, faire à manger, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que des chênes creux qui abritent des personnages, on en trouve dans de nombreux mythes, de nombreuses légendes. Par exemple, dans la mythologie scandinave, il y a des enfants qui sont sur le point de se faire assassiner et leur protecteur décide de les cacher dans un chêne creux et de les nourrir pendant plusieurs années comme s'ils étaient des chiens, en fait, qu'ils allaient nourrir, pour les protéger de leurs assassins potentiels, par exemple. Il y a parfois des histoires avec des ermites qui s'abritent dans un chêne pour se protéger de l'orage, par exemple, ou se protéger des païens qui les poursuivent, ce genre de choses. Donc le chêne creux qui abrite les personnages et les protège, c'est vraiment un motif classique qui traverse les époques et les frontières politiques, encore une fois.
Ouais. Et là, je tombe sur la page « Le chêne qui parle ». Forcément, ça me parle. Explique-nous.
En fait, le chêne, c'est-à-dire le titre de l'ouvrage, et un arbre qui est par essence, qui est de manière forte oraculaire, c'est-à-dire qu'il est capable de révéler les vérités cachées, révéler aux hommes et aux femmes leur avenir, révéler comment les choses vont se passer, révéler des vérités, en fait, que les choses ne savent pas, des secrets, en fait, tout simplement. L'exemple le plus parlant, si je devais dire, ce sujet, c'est probablement celui des chaînes de Dodone dans la Grèce antique, c'est-à-dire c'était un sanctuaire qui était dédié à Zeus, dans lequel les prêtresses donnaient aux visiteurs des informations sur leur avenir, sur ce qui allait arriver, est-ce qu'ils allaient entrer en guerre, est-ce qu'ils allaient avoir un enfant, est-ce qu'ils allaient se marier, etc., en fonction du chêne, enfin en fonction d'un chêne qui était donc un arbre dédié à Zeus, et en fonction du vent dans les feuilles, en fonction de quel endroit du chêne un oiseau chantait, est-ce qu'il y avait un gland qui tombait de tel côté ou de tel côté, et puis les prêtresses interprétaient tout ça et donnaient des réponses aux personnages qui venaient les consulter. Et en fait, on retrouve des chênes qui parlent dans de nombreux autres mythes ou de nombreuses autres légendes. Et même dans la culture contemporaine, le chêne reste un arbre qui révèle ses vérités. Oh. Par exemple, Jeanne d'Arc, quand elle a entendu les voix qui lui conseillaient d'aller défendre Charles VII au moment de la guerre de Cent Ans, elle l'a fait dans un bois qui s'appelle le bois chenu, par exemple. Donc, on peut supposer que c'est encore une fois des chênes qui sont impliquées dans cette idée. Dans c'est Pokémon, il y a un Pokémon qui s'appelle Celebi, par exemple, les Celebi. Il y a un Pokémon qui voyage dans le temps et qui a surnommé la voix de la forêt dans un film Pokémon. Et Celebi vit dans un endroit qui s'appelle le bois aux chênes, par exemple, ce qui est probablement encore une fois pas anodin, en tout cas qui est une coïncidence assez troublante et assez amusante. Voilà.
Moi, je ne verrai plus jamais le chêne de la même façon. C'est incroyable. Ouais. Tu savais tout ça, toi, Jérôme ?
Ah, pas tout ça. Non. Moi, tu sais, je reste très basique avec le chêne. Enfin, quand je dis très basique, c'est plus du ressenti que du. Voilà.
Ouais. Mais toi aussi, tu fais des recherches sur certaines légendes et puis il y a beaucoup d'aspects de symbolisme et de tout ça dans tes livres.
Ah oui, tout à fait, ouais. C'est le travail de recherche est très important pour justement garder une forme de savoir au sein des livres. Quoi,
en fait. Voilà. Sur des lieux, sur des traditions aussi.
Voilà,
toi.
Tout à fait. Ouais. Voilà, sur tout cet aspect-là.
Ouais. Est-ce que vous pensez que vous avez le mode de recherche en commun ? Comment on fait des recherches comme ça pour sortir des œuvres pareilles ?
Je ne sais pas. Comment procèdes-tu, Jérôme ?
Oui, comment tu procèdes ?
Ben, je pense que je fais comme toi. Je vais voir un peu tout ce qui existe à ce niveau-là sur Internet, dans les archives, dans les livres aussi. Surtout, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les livres et dans les archives. En règle générale, c'est là que je trouve le plus de ressources, parce que sur Internet, c'est vrai que c'est évoqué, mais c'est pas quand on a besoin de plus de détails, de plus de choses concrètes, il faut aller se plonger dans les sources et remonter justement à ces livres, quoi.
Oui, c'est ça. Moi aussi, je lis beaucoup, évidemment, sur les sujets que j'étudie. Et puis, en l'occurrence, pour le coup, j'utilise quand même beaucoup Internet, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sites qui sont des ressources précieuses pour les chercheurs. Je pense à des sites comme Gallica, comme Archive.org, qui permettent de trouver beaucoup de documents anciens qu'on n'arriverait même pas à trouver en papier, en fait, tout simplement.
Ah, c'est fou.
Donc, on peut les trouver en format PDF, et on peut les lire sur l'ordinateur. Et après, j'essaie de regarder des films, d'écouter des chansons en rapport avec, par exemple, le chêne ou le pommier, de faire des recherches à ce sujet. Et, puis, et en fait, moi, comme je sais que je travaille sur les arbres, c'est un travail sur le long terme qui va me demander peut-être toute ma vie, je ne sais pas, mais parce qu'il y a beaucoup d'arbres à faire et beaucoup de symbolisme à étudier. En fait, j'ai un tableur Excel, tout simplement, dans lequel je note, dès que j'ai des références sur les arbres, des éléments intéressants, je les note dans ce tableur. Et ensuite, j'analyse le symbolisme en fonction des différentes occurrences que je trouve dans mes recherches. Voilà.
Est-ce que tu penses que tu as des choses que tu n'as pas notées ?
Ah bien sûr. Ouais, oui. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, pour mes recherches sur le chêne, je suis à quasiment 2000 lignes dans un tableur Excel d'entrée sur le chêne. Et pourtant, là, le livre est sorti, donc je me dis qu'il est un peu trop tard. Mais des fois, en discutant avec des gens, en lisant, je retombe sur des choses. Je me dis, tiens, ça aurait pu être intéressant, j'aurais pu en parler. Bon, il est trop tard, c'est comme ça.
Bon, il y aura un tome 2.
C'est
quoi.
Infini. Voilà, je pourrais faire une version. C'est ça. Une deuxième version avec les ajouts. Et... Non, mais après, il faut aussi savoir être succinct et aller à l'essentiel. Mais disons qu'il y a toujours effectivement des nouvelles données qui me semblent intéressantes et dont des fois, d'ailleurs, je parle en conférence alors qu'elles ne sont pas dans le livre parce que c'est des ajouts récents, des trouvailles récentes, on va dire. Oui. Voilà.
Est-ce que tu vas nous dire enfin, Jérôme, de quoi parlent tes romans que tu as sortis depuis qu'on est sorti?
En fait, comme celui, il y en a eu plusieurs. Il y en a un qui est sorti en décembre qui s'appelle Erzelem, que j'ai voulu consacrer à la dépression alors que j'étais dans ce truc-là au mois de décembre.
Okay.
Mais avec un côté positif, c'est-à-dire comment on s'en sort, pourquoi, quel est le but de la dépression
et
le côté lumineux. Ouais. Donc c'est très positif. Ensuite, il y a eu Scribe qui parle de ce vampire un peu particulier. Il y a eu alors là c'est pareil, j'emmène le lecteur très loin, ça s'appelle Jeju, donc ça c'est une île de Corée et en fait on a l'histoire d'un capitaine qui a perdu sa femme un an plus tôt, qui était coréenne, et qui va aller couler. Son boulot, c'est de couler des bateaux, en fait, pour créer des récifs. Et il va découvrir, on va dire, un nouvel amour au travers des traditions des plongeuses coréennes, donc qui plongent en apnée, hein, bien évidemment, dans des températures très froides. Ensuite, il y a eu quoi ? Il y a eu Raisonnarc. Raisonnarc qui raconte l'histoire d'un homme qui habite les Vosges, justement, et qui accueille les gens. Il sait déjà qu'il y a des gens qui vont venir et eux ne savent pas ce qu'ils viennent chercher en fait chez lui. Donc il y a une forme de résilience qui arrive. Et enfin, le dernier, celui qui sort, on est le 19, qui sort dans deux jours officiellement parce qu'il fallait qu'il sorte dans deux jours. Là, c'est okay. Alors là, l'histoire est un peu particulière parce que ce livre fait, on va dire, entre 700 et 1200 pages suivant le format.
Ah bon ?
Il a été écrit en un mois. Et il raconte en fait, il a fallu que je le relise parce que c'était un peu de l'écriture automatique. Ça s'appelle Elle.
Oui.
Et en fait, ça raconte l'histoire de. Enfin, ça raconte. Comment dire ? L'âme de. Je me suis interrogé pour savoir ce qui se passerait si l'âme de Jésus revenait dans un corps de femme.
Ouais.
Et donc elle revient dans un corps de femme. Ça se passe entre 1993 et 2026. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis très très longtemps. Et il y a pas si. Et avant que j'écrive ce livre, j'étais allé voir un ami chaman qui habite au Gironde-Val d'Ajol. Pour discuter de choses et d'autres. Et à un moment donné, il a sorti une flûte qui faisait masculin et féminin sacré. Et là, ça a été le déclenchement du truc. Donc, j'ai écrit. Au fur et à mesure que j'écrivais, il y a des choses qui ont changé en moi, dans ma vie. Et avant qu'il sorte, donc, je suis allé offrir ce premier tome à Guillaume, donc cet ami chaman. Et c'est quelqu'un qui ne disait pas beaucoup, il m'a dit, écoute, si je ne sais pas comment t'expliquer, ça a changé ma vie, ça a changé notre vision du couple, ça a changé, en fait, il y a des similitudes que moi, je ne connaissais pas, et que c'est lui qui me les a dit après, en fait, et en fait, toutes les deux, trois personnes qui l'ont lu, c'est pour ça que quand je parle du livre, je dis... C'est pas vous qui lirez le livre, c'est le livre qui vous lira en fait. Et tout au long de ce livre-là, plusieurs thèmes sont abordés. On a tout ce qui est pédophilie, sa vision par rapport au bourreau, par rapport au pervers narcissique, sa vision du handicap, la vision qu'elle porte sur nos maisons de retraite, sur plein de choses culturelles et autres, sur la guerre en Israël, à Gaza, partout. Et c'est, je ne sais pas comment expliquer, c'est quand on le relit, c'est tellement simple que, d'évidence qu'on se dit, mais comment c'est possible quand elle, ce Guillaume qui a récupéré cet enfant, parce que, il lui apprend différentes choses, les arbres, etc. Enfin, il a son rapport avec la nature, comme on est dans ce thème-là. Et à un moment donné, il lui explique, la suite de Fibonacci, le cercle. Il lui met un point au milieu, et il y a un cercle autour, et il lui dit qu'est-ce que tu as compris par rapport à ça. Et la petite dit, qu'on est tous au même niveau, en fait. Et il lui dit, et si on part du principe que le point, c'est le divin, qu'est-ce que tu en conclus ? Et là, elle réfléchit, elle dit, on est tous égaux, on est tous... Voilà. Il y a plein de petites choses simples, mais qui sont tellement créées en évidence que je ne sais pas comment expliquer. C'est un livre qui, même moi, je ne saurais pas expliquer comment il est né, et qui m'a tellement chamboulé que je crois que c'est le seul livre que j'ai mis aussi en édition prestige en un seul bloc pour passant par BOD justement où t'as fait tes derniers livres là je laisse découvrir tout ça au lecteur parce que c'est difficile de décrire ce qu'on ressent ce qu'ils vont ressentir en lisant ce livre parce que moi ça m'a totalement chamboulé.
Oui, c'est un peu une canalisation, non ?
Je pense qu'à ce niveau-là. Ça, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas être canalisation parce que je ne pense pas que j'aurais écrit ça. 1200 pages, je crois que j'ai jamais écrit ça comme ça. Quoi. Mmh. Voilà. Mmh.
Tu l'as lu, Pablo ?
Non, pour être franc, non. J'ai pas encore eu.
On va le lire, je pense. Ouais. Hein, on va se faire une petite pause disque chouchou, hein, parce qu'il faut se remettre de tout ça quand même, avec Patrick Watson, un artiste que j'affectionne particulièrement pour ce son incroyable qui se nomme Ami Imaginaire. Je vous laisse écouter ça. Pour ce morceau incroyable que je vous invite à écouter en boucle, Ami Imaginaire de Patrick Watson. Vous connaissiez ?
Pas du tout.
Ah, c'est incroyable. Je vous ai vu discuter, mais si vous avez l'occasion de l'écouter à tête reposée, tu verras, ça va beaucoup te plaire. Qu'est-ce que nos forêts vosgiennes possèdent encore aujourd'hui de sacré, selon toi, Pablo ? Est-ce qu'elle abrite encore des mythes, cette forêt vosgienne ?
Oui, bien sûr. Hein. Toutes les forêts, de toute façon, abritent des mythes par nature, parce qu'ils abritent des arbres qui eux-mêmes abritent des créatures particulières, le petit peuple, hein, des fées, elfes, géants, dans certains contes, dans certains mythes. Voilà, la forêt a toujours été le lieu d'ancrage de l'imaginaire de l'homme par excellence, en fait. Hein. Okay. On adore utiliser la forêt. Alors, à la fois, elle nous fait peur, à la fois, elle nous fascine. On craint des fois de s'aventurer dans la forêt par peur de croiser le fameux loup-garou ou autre.
Ouais.
Mais en même temps, elle nous attire aussi. Et c'est aussi là qu'on imagine les dryades, qu'on imagine les fées, qu'on imagine toutes ces créatures plutôt positives,
ouais.
Souvent en tout cas. Voilà. Et pour le coup, la forêt vosgienne abrite certains contes ou certains mythes spécifiques. Je pense par exemple au Wairan, que vous connaissez sans doute. Le fameux, voilà.
Tu connais, Jérôme ?
Oui, d'ailleurs, ça a été le... Ça a été le... le personnage principal de mon tout premier roman. Oui. Donc, voilà.
Ok, voilà. Explique-nous du coup, parce que si certains d'entre nous ne savent pas.
L'Ouéran est une créature du folklore vosgien qui a des pieds de bouc, je crois, avec aussi des cornes de bouc sur les fesses qui fait qu'il peut s'asseoir quand il le veut.
C'est génial.
C'est pratique, des cornes. Voilà. Il a aussi des cornes de bouc, c'est une espèce de créature hybride et qui a tendance à protéger les forêts des coupes illégales. En tout cas, c'est souvent présenté comme ça, où il vient s'en prendre aux bûcherons, effrayer les bûcherons qui feraient des coupes au milieu de la nuit de manière illégale et qui viendraient voler du bois. Et voilà.
C'est génial, on espère qu'il existe vraiment.
Ouais.
probablement.
Mais la forêt, c'est une entité à part entière, j'ai l'impression. Mmh. Alors, ça regroupe plein d'arbres différents, mais la forêt, c'est un petit peu la maison de l'imaginaire, non ?
Exactement. Non seulement c'est la maison de l'imaginaire, mais même parfois, c'est un personnage de l'imaginaire, dans le sens où la forêt vivante, c'est aussi un motif extrêmement classique dans l'imaginaire de l'homme, que l'on retrouve depuis la nuit des temps. Hein. Il y a par exemple un chant gallois traditionnel qui s'appelle le 4-go-2, qui veut dire le combat des arbres, dans lequel un magicien, Gwydion, enchante toute une forêt, donc les différentes espèces d'arbres vont combattre à ses côtés. Ça fait bien sûr penser aux Ents dans le Seigneur des Anneaux, qui aussi sont des arbres c'est vraiment écologique, hein, qui protègent la terre du milieu contre Saruman et ses troupes, qui sont en train de créer une espèce d'industrie militaire effrayante. Pour encore citer, je sais pas, Shakespeare par exemple, ou dans Macbeth, Macbeth a peur que la forêt de Great Birnam, je crois, s'avance contre lui, et finalement ça finit par arriver de façon métaphorique, par exemple. Bref, la forêt vivante est vraiment un motif aussi classique que l'on retrouve à travers les époques, à travers les âges, et dans des contextes très différents, et qui, je trouve, illustre bien le rapport particulier que l'homme entretient avec cette forêt, où il en fait plus que simplement un décor, en fait. C'est-à-dire c'est à la fois un moyen de subsistance pour lui, mais aussi quelque chose qui l'effraie, qui le fascine. Voilà, c'est quelque chose un rapport très intéressant entre la forêt et l'homme, en fait.
À quel moment, en fait, l'homme a rompu son lien avec la forêt ? Est-ce que ça s'explique, ça ? À quel moment il a perdu cette importance en lui ?
Je ne sais pas si le lien était complètement rompu. Ce que j'essaie de montrer dans mes ouvrages, c'est que malgré tout, le symbolisme des différentes espèces d'arbres est toujours présent dans la culture contemporaine, même si on y fait moins attention peut-être qu'autrefois. Mais je pense qu'effectivement, le lien entre l'homme et la nature et l'arbre, notamment, c'est un peu distendu. Et je pense que si on devait essayer de trouver une date, on n'a pas de date précise, mais disons que l'évolution de la société à l'ère industrielle, qui fait que la paysannerie a eu tendance à décliner pour le secteur tertiaire, donc beaucoup plus d'activités de service, fait que les gens ont eu des métiers, des activités qui les éloignaient de fait de la nature, en fait. Il dépendait plus de la nature pour vivre, il dépendait plus de la nature pour se nourrir, en fait. En tout cas, pas directement, il le ressentait pas comme ça. Ouais. Et donc, je pense que beaucoup de personnes ont un peu perdu ce lien fort avec la nature à ce moment-là, en fait. Et aujourd'hui, dans notre société où la paysannerie, où les travaux en lien avec la nature sont quand même de plus en plus restreints, en fait, hein, en termes de pourcentage de la population, je pense que malheureusement, c'est assez naturel, en fait, qu'on perde un petit peu ce lien. Et c'est important de le retrouver parce qu'on est dans un moment où, justement, on aurait besoin que la nature rejoue tous les services qu'elle nous a toujours servi. Elle doit toujours jouer. Et puis par ailleurs, parce qu'elle est belle en elle-même et qu'elle doit être protégée pour elle-même, en fait, simplement pour ce qu'elle est. Et ce que je veux aussi montrer à travers ces livres, c'est que non seulement elle doit être protégée pour des raisons écologiques, mais pour des raisons patrimoniales et historiques, en fait, dans le sens où un arbre, c'est pas seulement de la photosynthèse, c'est pas seulement un tronc et des branches, c'est aussi une histoire, en fait. Le chêne, il y a toute une histoire derrière lui, tout un patrimoine, et ça, c'est aussi important de le prendre en compte, en fait.
Mais oui, moi, je voudrais me réincarner en arbre. Alors, je suis pas du tout cartésienne, hein, mais tu vois. Mais moi, quand je vais en forêt, je me dis à quel moment on a voulu créer autre chose de plus beau que ce qui existe déjà, quoi. Et du coup, j'en viens à la sylvothérapie que tu proposes, Jérôme, depuis peu, il me semble.
Oui, tout à fait.
Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est la sylvothérapie.
Mais en fait, la sylvothérapie, c'est un peu le mot dérivé du mot japonais Shinrin-yoku, qui est un peu le bain de forêt. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, les études ont été montrées par un scientifique japonais que le fait d'habiter près des forêts, d'aller en forêt, pouvait développer le système immunitaire, guérir certaines maladies, et même que certaines essences d'arbres, en fait, jouaient sur tel ou tel mot. La sylvothérapie, en fait, voilà, j'y vais régulièrement pour moi en forêt, comme je pense beaucoup de personnes sensibles qui ont besoin de se ressourcer. Et en fait, j'avais proposé ça au mois de mai. Et en proposant au mois de mai, en fait, les gens ont tout de suite accroché, ont apprécié. On m'a même proposé là, pour la rentrée peut-être de faire un partenariat, c'est en discussion, pour pouvoir aller proposer une journée de formation aux infirmiers de troisième année en médecine non médicamenteuse, justement en sylvothérapie, en méditation. Donc je trouve ça super par rapport à ce rapprochement.
Ouais.
Et en fait, ça a été tellement intéressant pour les gens que j'ai décidé de proposer deux dates en juillet, puis j'en ai rajouté deux autres. Et puis en fait, là, elles commencent à être... Il y en a déjà trois qui sont complètes et ça arrive de partout. Et en fait, la sylvothérapie, les gens, ils imaginent que... Enfin, l'image qu'on a, c'est on va se frotter contre l'arbre, on va faire un câlin. Donc ouais. Oui, effectivement. Mais pour moi, ça va être les gens qui vont venir, ils vont apprendre à utiliser leur magnétisme justement pour ressentir les arbres, pour se ressourcer, pour soulager un arbre, parce qu'on peut donner quelque chose à l'arbre, l'arbre peut nous donner des choses, et en fait ça va être vraiment une reconnexion totale, ça sera pas du câlin avec l'arbre, ça sera vraiment comment moi avec mon corps je peux profiter de ces énergies, profiter de ce qui m'entoure. Et on m'a, là par exemple, là où j'emmène les gens au niveau du massif du Fossard, j'ai choisi un lieu exprès parce qu'il y a une partie de résineux, une partie de feuillu. Et le ressenti n'est pas le même en fonction de l'essence utilisée, puisque les résineux vont avoir une tendance à donner beaucoup d'énergie et le feuillu va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va calmer, etc. Mmh. Et justement, cette personne-là du premier stage, elle a posé une question... Elle m'a posé une question qu'on pose très rarement. Elle m'a dit, mais les forêts artificielles, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Enfin, je dis, oui, il y a forcément quelque chose, mais on ne ressent pas la même chose qu'une forêt désordonnée, en fait. Enfin, quand je dis désordonnée, qui pousse oui, naturellement.
Ouais,
quoi, voilà.
Ouais. Est-ce que toi, tu ressens les arbres sur lesquels tu écris? Alors, ça paraît bizarre comme question, peut-être, pour quelqu'un de cartésien.
Oui, bah, c'est vrai que je n'ai pas forcément la même approche sur la sylvothérapie, mais je ressens les arbres dans le sens où j'ai un lien.
Ouais. Ah, on précise que Pablo sort d'une angine.
Un petit peu, oui, j'ai un peu la voix cassée, mais ça va. Ça va. Je ressens les arbres dans le sens où j'ai forcément un lien affectif qui est très, très fort avec les arbres. J'avais dit tout à l'heure que j'étais vraiment un amoureux de la nature depuis l'enfance. Et donc, quand j'écris sur les arbres, je pense toujours à des arbres particuliers avec lesquels j'ai un lien d'ordre sentimental, en fait.
Okay.
Quand j'écris sur le chêne, je pense à certains chênes que j'ai connus dans ma vie, dans lesquels j'ai construit des cabanes avec mes copains quand j'étais petit,
chouette.
Dans lesquels, éventuellement, voilà, j'ai rencontré quelqu'un à cet endroit, ce genre de choses. Le de pommier, pareil. Et il y a un côté, en fait, très nostalgique, souvent, dans les arbres. Et d'ailleurs, quand je fais mes conférences ou mes interventions en librairie ou autre, les gens, très souvent, viennent me parler à la fin pour me parler spécifiquement d'un arbre, d'un arbre qu'ils connaissent, d'un arbre qu'ils aiment.
Et
du coup, ils prennent souvent plutôt le livre sur le chêne ou plutôt le livre sur le pommier en fonction de leur affection particulière avec un arbre ou avec un souvenir d'enfance. Ça peut être le pommier, les fameuses tartes aux pommes du jardin, les fameuses les pommes qu'on allait cueillir avec les copains. Voilà. Il y a vraiment un côté affectif avec les arbres qui, donc, de fait, crée un lien avec les arbres. Hein, voilà.
C'est quoi ton arbre chouchou?
Alors moi, mon arbre chouchou, c'est l'if. Qui est un arbre qui est un arbre funéraire, en fait, qui est souvent lié à la mort. Donc là, comme ça fait un petit peu peur. Mais en fait, il est aussi un arbre qui vit très longtemps. C'est en fait un symbole à la fois de mort et d'immortalité, l'if. Et en fait, il y a en France, l'if est un peu plus rare que dans les pays anglo-saxons, mais il y a quand même de très beaux ifs et de très anciens ifs, notamment en Normandie, où il y a des ifs de plus de 5000 ans.
Wow.
Et en Écosse, en Irlande, tout ça, il y a aussi des ifs qui sont de 8000, presque 10000 ans pour certains d'entre eux, même plus, selon les estimations. Et donc, j'aime beaucoup cet arbre pour son symbolisme très complexe. Et pour sa longévité, il y a un côté un peu fascinant de se dire que certaines espèces d'arbres comme ça peuvent avoir été là à des temps immémoriaux, en fait.
Ouais.
Je trouve ça assez fou.
Et toi, Jérôme?
Moi, j'en ai deux, en fait. Il y a l'olivier, déjà, pour sa symbolique. Et surtout, j'ai un rapport un peu vraiment très intime avec tous les tilleuls, en fait.
Ah ouais.
Parce que pour moi, les tilleuls, ils ont quelque chose. Déjà, il y a l'odeur qu'ils peuvent dégager, surtout à cette période. Et surtout, c'est un arbre qui a su me guérir, me soigner au fil des années pour diverses choses. Et notamment, je bois régulièrement des tisanes avec de l'aubier de tilleul. Et l'aubier de tilleul est connu, par exemple, pour ses vertus anti-inflammatoires et qui agissent, par exemple, quand on a de la goutte, quand on a de l'eczéma, quand on a... Voilà, il agit vraiment sur quelque chose sur le corps, on va dire, sur les choses basiques et qui peuvent éviter de développer des symptômes un peu plus graves. Donc, c'est vrai que le tilleul... Et puis, j'ai toujours... cette, enfin, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui ont des souvenirs. Je me vois toujours en été sous un tilleul avec les gens qui jouent en dessous, par exemple à la pétanque ou ce genre de choses. Mmh. Et c'est vrai qu'on en voit plein dans les villes de tilleuls. Et je sais pas, c'est un arbre qui me parle énormément. Quoi. Mmh.
Ça me fait penser aussi un petit peu à la sève de bouleau. Oui, vous en consommez ou pas?
Ouais. Ça peut m'arriver, honnêtement, pas couramment, mais voilà.
Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, de consommer de la sève de bouleau?
Honnêtement, bonne question. Je ne sais pas depuis quand on consomme la sève de bouleau. Il faudrait étudier, mais je pense que ça date quand même de longtemps.
Ouais. Ok. Ouais. Pour ses vertus, quand même.
Tout à fait.
Immunitaire, non?
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, dépuratif.
Dépuratif. Voilà. D'ailleurs, le bouleau est un arbre de la pureté, de l'épuration. Au niveau symbolique aussi, c'est ça qui est intéressant.
C'est génial.
Parce que, par exemple, avec le bouleau, on faisait des balais autrefois dans les pays du Nord, en Russie notamment, dans les pays de l'Est, on l'utilisait pour faire des balais.
Ah ouais?
Donc, il y a ce côté purification de la maison, si on veut, donc purification du corps par la sève de bouleau. Ouais. Et puis, purification morale, parce que au Moyen-Âge, à l'époque moderne, les moines qui estimaient avoir péché, certains d'entre eux, en tout cas, il y a des sources là-dessus, notamment un texte qui s'appelle Le Moine d'Aïcham au Moyen-Âge, où ils expliquent qu'en fait, le bouleau était utilisé pour se fouetter et laver ses péchés. Alors c'est beaucoup plus... voilà, il y a toujours le côté purification morale. Et par ailleurs, le bouleau est un arbre qui pousse souvent en premier dans les coupes forestières. C'est un arbre qu'on appelle pionnier, qui va réapparaître en premier, qui va se développer en premier. Donc il y a ce côté un peu renouveau, recommencement associé au bouleau.
Wow.
Aussi en lien évidemment avec son écorce blanche qui symbolise la pureté.
Et quand tu parles de balais, est-ce que les balais de sorcières étaient aussi en bouleau, tu sais?
Alors certains, oui. Il y a des représentations où on reconnaît clairement le bouleau. Et après, il y a probablement d'autres essences qui sont utilisées. Dans le sud, c'était par exemple, pour faire les balais en général, je veux dire, il y avait le genêt à balais qui était connu pour ça, pour faire les poils de... Voilà. Et puis après, pour les balais de sorcières, il y a différentes essences qui ont été utilisées. Je ne pense pas qu'il y ait une essence seulement.
Oui, c'est incroyable. On pourrait rester toute la journée, en fait. Cette émission passe à toute vitesse. J'ai posé un dixième de toutes les questions que j'avais prévues pour aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On s'écoute le dernier disque chouchou avant de se dire au revoir tranquillement. Et voilà, je vous souhaite un très bon moment. Tenebrae se. un côté un petit peu trans hein, dans ce morceau, Jérôme.
Comme d'habitude, j'adore. C'est pour ça que j'ai gardé l'écouteur sur une oreille pendant que tu parlais tout à l'heure.
J'en avais plein en plus, exprès pour toi, des morceaux. J'ai pas eu le temps de les passer. Est-ce que il y a des cultes que tu relèves au sein de Forêt avec des arts particuliers pour des périodes de trans, Pablo, est-ce qu'il y a des...
Oui, forcément. Dans les mythes, il y a beaucoup de cérémonies chamaniques, même les fameux sabbats de sorcières qui s'opéraient clairement sous des arbres particuliers du paysage, normalement. Hein. On cite dans les archives des procès de sorcellerie, c'est souvent marqué vers le chêne, la colline du chêne, des choses comme ça.
Surtout le chêne, alors.
Alors, pas forcément. Alors, le chêne, parce que c'est un grand arbre, il attire le regard, et je pense que c'est pour ça que ça ressemble beaucoup. Sinon, les arbres de sorcières, typiquement, c'est le pommier, par exemple, qui est beaucoup utilisé, justement, la pomme pour transmettre le malin à autrui. La pomme est typiquement citée dans beaucoup de procès de sorcellerie. Et sinon, l'arbre qui est le plus connu pour les sabbats, c'est le fameux noyer, parce qu'en Italie, il y avait un noyer qui s'appelait le noyer de Bénévent, qui était très connu parce qu'il abritait des sabbats célèbres à l'époque moderne, selon les chroniques en tout cas. Mmh. Donc le noyer a beaucoup été associé à la sorcellerie aussi. Ouais.
Ok, d'accord. C'est passionnant.
Complètement.
C'est passionnant. J'étais ravie de vous accueillir tous les deux aujourd'hui dans cette odeur du son que j'aurais voulu interminable. Le chêne, le pommier, pour toi, Pablo, ça se passe aux éditions de la Chaux et Niestlé, c'est ça.
Exactement.
On peut le retrouver sur Internet, en librairie, chez Posez-vous, par exemple.
Chez Posez-vous, en librairie, sur Internet également. Oui. Mais vaut mieux aller en librairie.
Ok, oui, bien sûr. Allez dans les librairies locales, s'il vous plaît. Jérôme, toujours en auto-édition ? Comment ça se passe en ce moment ?
Ouais, toujours en auto-édition, tout à fait. Donc, et puis, on peut retrouver les livres, pareil, sur BOD, sur Bookelis, Amazon. Et puis, demain, j'ai un salon à Villers-Excel. Oui. Donc, ceux qui y seront, ils auront en avant-première, elle.
Ouais.
J'ai hâte de présenter ce livre-là. Et puis, dédicace chez Posez-vous le 7 juillet, je crois. Ça, le 7 juillet. Donc, ça sera un réel plaisir.
Génial. Tu verras, c'est un vrai soleil, Maud. C'est un vrai chouchou. Oui,
tout à fait.
Un chouchou. Elle propose des chroniques littéraires toutes les deux semaines chez nous avec sa sélection spéciale. Vous retrouverez la prochaine, d'ailleurs, lundi à 9h et 13h30. Une spéciale Mois des fiertés. Voilà. Merci beaucoup encore à vous deux d'être venus me rejoindre aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite ?
Je crois que pour moi, ça sera le calme et la paix intérieure, comme d'habitude. Plus j'avance, plus je suis...
C'est bien ça. Il y a eu une grosse période de transition, elle s'est bien passée du coup.
Elle a été... je pense que ces bouquins vont être...
Ok. Et à toi, Pablo, qu'est-ce que je te souhaite ?
La sérénité, c'est bien aussi, ça
me va. C'est cool, c'est ça.
Sinon, un été pas trop chaud, si c'est possible.
Oui. Et, prenez soin des forêts, des arbres.
Belles observations botaniques, ornithologiques, de belles balades, et voilà.
On vous retrouve sur les réseaux sociaux ?
Oui, tout à fait.
Oui, comme d'hab.
Instagram, Facebook aussi. J'ai aussi un site internet.
Oui.
Sur lefeuillagedesages.com et une chaîne YouTube qu'on peut retrouver aussi. Avec des articles sur mon site internet et des petites vidéos, alors pas beaucoup pour l'instant, mais sur les arbres et sur la nature et l'aspect culturel de la nature sur YouTube aussi.
On mettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission. Toi aussi, Jérôme, t'as un site internet.
Voilà, tout à fait. Mais plus pour l'hypnothérapie. Voilà.
Ok, voilà, super. Merci beaucoup à tous les deux.
Cette émission
eh bien, elle sera podcastée très prochainement sur nos réseaux sur notre site internet. En attendant, auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. Et surtout, tu n'oublies pas, tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Allez, kiss! Thank you.